Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, on s'intéresse au ménage et au rangement, la propreté de son logement, une lutte digne de Sisyphe et de son rocher, éternel retour de la saleté, de la poussière, de la crasse et du désordre. Pendant les divers confinements, nous en avons profité pour nettoyer, astiquer, trier, jeter, désencombrer, avec un sentiment de sérénité et de bien-être que n'aurait pas renié la maniaque Monica Geller dans la série Friends. Nous sommes nombreux à aimer faire le ménage. Une étude publiée dans une revue médicale montre que 20 minutes de ménage énergique par jour permettrait de réduire stress et dépression. Mais pour d'autres, évidemment, ce sont des tâches lourdes qui pèsent sur la charge mentale des femmes, essentiellement, surtout quand le partage des tâches reste un vœu pieux. Nous verrons comment mieux répartir le ménage et le rangement au sein du couple. Enfin, avec 60 millions de consommateurs, nous vous indiquerons les produits ménagers les moins toxiques et les plus efficaces pour nettoyer le plus sainement possible avec des recettes maison très simples à réaliser. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 ou en nous laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Moi j'adore faire la cuisine, j'adore aussi faire le ménage. C'est parce que j'aime bien voir le succès. Comme dans ma profession et dans beaucoup de professions, on a toujours l'espoir que ça soit bien. Et très souvent, ça se montre seulement beaucoup plus tard. Mais quand on fait le ménage, quand il y a un mur qu'on nettoie, on voit tout de suite. Et quand on fait la vaisselle, et tout brille, et tout est bien rangé, on voit l'effet tout de suite, on ne doit pas attendre. Et je crois que c'est pour ça que j'adore faire le ménage et j'adore faire la vaisselle, parce que c'est l'effet immédiat. Et ça donne une grande satisfaction.
La comédienne Marlène Dietrich en 1963. Bonjour Bruno Ginesti.
Bonjour.
Alias Bégine, vous publiez Ménage et vous, publiez chez Marabout. Et c'est un programme pour un ménage simple, efficace et naturel. Votre compte Instagram, bégine.clean, compte plus de 50 000 abonnés. Vous la comprenez Marlène Dietrich? Elle vous parle?
Je trouve qu'elle est élégante, ouais, ouais, c'est vraiment, elle a raison, c'est l'instantanéité dans le ménage en fait. Ouais, elle est extraordinaire.
Bonjour Elvira Petit.
Bonjour.
Vous dirigez une agence spécialisée en organisation d'intérieur et personnel et vous avez publié chez Vigo Le Rangement, c'est maintenant. Bonjour docteur Aurélia Schneider.
Bonjour Aline.
Vous êtes médecin psychiatre, dernier ouvrage paru chez Larousse, La charge mentale des femmes illustrée par Museau. Bonjour Sophie Kwan.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe des hors-séries de 60 millions de consommateurs. Le nouveau numéro s'intitule « Nettoyer sain, dépenser moins, 119 produits ménagers analysés, les moins toxiques et les plus efficaces ». Alors Bruno Ginesti, je commence avec vous. Vous vivez une histoire incroyable. Vous étiez manager dans le milieu de l'opéra et de la musique baroque pendant plus de 10 ans. Mais en 2020, la crise sanitaire interrompt vos projets artistiques. Et dans cette période de désœuvrement, vous vous adonnez à une passion, le ménage.
Exactement. J'ai eu la chance d'être confiné à Toulouse dans la maison familiale et alors que des gens passaient du temps à faire de la cuisine ou du jardinage ou du bricolage, moi c'était le ménage, mais parce que j'aime ça profondément depuis toujours. Mmh. Et puis un jour mes amis m'ont dit mais c'est sympa, fais un compte Instagram pour publier notamment des avant-après, etc. Et donc j'ai commencé à le faire et j'ai été extrêmement étonné de voir le nombre de personnes qui arrivaient. Ça a dépassé la sphère familiale et amicale. Et des personnes donc que je ne connaissais pas du tout, qui m'écrivaient « Bonjour Bruno, comment tu reconnais un vrai savon de Marseille? Comment tu nettoierais ça? Comment tu nettoierais ça ?» Et je me suis dit « Mais c'est pas possible. » Et donc voilà, petit à petit, je me suis renseigné sur plein de sujets. Puis j'ai commencé à faire des vidéos, des photos, des avant-après. Et jusqu'en septembre 2020, où finalement les salles de concert étaient toujours fermées, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Il y a eu une communauté qui y est arrivée. On avait 1500 abonnés. Je me suis dit, essaye d'aller plus loin en professionnalisant un petit peu tout ça, en allant rencontrer des professionnels, etc. et en partageant tout ces trucs et astuces. Et puis oui, aujourd'hui, on est plus de 100 000.
Ah oui.
Et je continue à recevoir des messages, énormément de messages. Parfois très basique, comment tu peux blanchir ton linge ou comment, voilà, mais j'adore.
Et vraiment. Vous avez donc créé le compte Instagram bégine.clean. Alors pourquoi la propreté vous passionne, contribue à votre bien-être, à votre sérénité? Au dos de votre livre, on peut lire ceci, la méthode pour un ménage simple, naturel, efficace qui rend heureux. Pourquoi ça vous rend heureux de faire le ménage?
Comme Marlène Dietrich le disait, là c'était une superbe introduction, je pense que c'est l'instantanéité, c'est le résultat, l'avant-après, la satisfaction. Je trouve que vraiment, s'il y a bien un sujet dans lequel on peut se sentir vraiment même fier et heureux, du coup, c'est en ayant bien fait sa vaisselle, en ayant une vaisselle qui brille, ou en ayant réussi à redonner un coup d'éclat à ses têtes d'oreiller ou à son linge de lit un peu grisé, voilà. Par des petites choses très simples, avec des produits naturels, c'est ça aussi, essayer de simplifier nos routines. Quand on va dans les supermarchés, c'est vrai qu'on nous fait croire qu'on peut pas avoir un environnement de vie, un appartement propre si on n'a pas, 45 produits, quoi. Et puis, il y a le produit pour le linge blanc, mais un peu plus blanc que blanc. Et puis encore celui pour le linge gris, celui pour le linge jaune, celui pour le linge beige. Enfin, c'est insupportable.
Vous acquiescez, Sophie Kouane, de 60 millions de consommateurs.
Ah, alors, complètement, puisque c'est vraiment même devenu des réflexes chez nous. Depuis qu'on est tout petit, ça sent le propre partout dans la maison. Donc, il faut absolument que nos produits et un parfum puissant parce que sinon on a l'impression qu'on n'a pas nettoyé ou utiliser moult produits ménagers pour toutes les pièces de la maison, ce qui est un vrai risque d'un point de vue santé.
On va y revenir d'ailleurs, docteur Schneider, vous comprenez cet état de sérénité de Bégine après avoir fait le ménage ?
Oui, alors tout à fait, l'introduction par Marlène Dietrich, fabuleux quand même. Mais je comprends et puis je suis très très heureuse de voir que c'est un homme qui fait ça, qui c'est extra quoi pour moi, parce que la charge mentale des femmes et celle des hommes aussi. J'ai juste une petite remarque à faire en disant, faut pas que ça devienne un esclavage. Il faut pouvoir laisser en plan un jour sa vaisselle pour aller se coucher, parce qu'on est crevé, on a reçu des copains, il est 1h du matin et là on va tout laisser en plan, on va ranger le beurre, tous les trucs un peu, voilà, les produits périssables, et on part au lit.
Et vous parvenez à laisser en plan comme ça
Alors, l'évier, en l'occurrence, pour l'évier, non, je vais me coucher, il est propre. Mais dans mon livre, justement, je dis « salir, c'est vivre ». Et ça, j'en suis intimement convaincu, c'est qu'il faut pas arriver à un point qui nous permettrait plus de vivre. Moi, je trouve que quand on a les clés pour justement nettoyer quelque chose qui a été sali ou ranger quelque chose qui a été mis en désordre, justement, on est trop heureux parce qu'on peut continuer à recevoir, que ce soit des amis, des enfants, continuer à inviter. On a taché la nappe de vin, c'est pas grave. Je sais comment la nettoyer et je vais réinviter des gens. Donc c'est vraiment ça.
Et lui ira petit sur cet état de sérénité après avoir fait le ménage, après avoir rangé. Vous le constatez chez vos clients, évidemment ?
Oui, évidemment, on constate une sérénité, un vrai plaisir à avoir un appartement propre, rangé, organisé. Et en fait, c'est complémentaire, le rangement et le ménage, parce que plus les surfaces sont dégagées, et moins on va passer de temps à faire le ménage. Quand vous avez un buffet plein de petites babioles qui prennent la poussière, ça va prendre 2 heures à les faire, à les nettoyer, à les dépoussiérer, alors que s'il n'y en a pas, et ça prend beaucoup moins de temps de faire le ménage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je mets en pratique avec ma clientèle. Il faut absolument que les surfaces soient dégagées au maximum. On peut avoir quelques petits objets de déco, évidemment, il ne faut pas que ça soit des espaces de rangement.
Alors Aurélia Schneider, une étude du British Journal of Sport Medicine montre que 20 minutes de ménage énergique par jour permettrait de réduire stress et dépression. Quand on s'active, on produit des endorphines, une hormone qui contribue à notre bien-être. Quand on fait le ménage régulièrement, cela devient un rituel qui peut contribuer à ce même bien-être. Comment on explique cela,
Aurélia Schneider ? Mais en fait, c'est une activité physique. Alors il y a même une étude qui avait été faite. On avait fait deux catégories de personnes faisant le ménage dans un hôtel. On avait expliqué, vous faites du ménage, vous faites du ménage, c'est votre métier. Et à une autre catégorie, on avait dit, vous faites du ménage, mais en même temps, c'est bon pour votre santé, c'est du sport. Et on avait constaté que ceux à qui on avait dit, c'est du sport et c'est bon pour votre santé, étaient bien plus énergiques que les autres et prenaient la tâche avec presque, de façon très positive. Et bien sûr, c'est du sport. Bien sûr, on est. Alors, le problème, c'est que c'est pas un sport symétrique. On n'est pas en train de faire des exercices dans une salle de gym, mais faire un lit, retourner un matelas, enfin tout ça, c'est de l'activité physique.
Et puis, le département de psychologie de l'université de Madrid a mené une étude en 2012, une étude qui indique que 88% des patients dépressifs faisaient ou refaisaient du ménage dès les premières semaines de guérison.
Oui, alors en fait, par exemple, en thérapie comportementale et cognitive, on donne souvent des tâches comportementales très simples pour réactiver quelqu'un de déprimé. Et dans ces petites tâches minuscules, moi, il m'est arrivé de nombreuses fois de proposer de faire simplement sa vaisselle, la vaisselle de l'assiette, de la fourchette et du couteau. Et de justement que ce soit visible, et cet aspect visible des choses, gratifiant, est en lui-même un outil antidépresseur.
Bonjour Florent, bienvenue.
Bonjour.
Alors, ça vous inspire ce qu'on est en train de se dire? Ça vous parle?
Alors, antidépresseur, je ne sais pas. Mais peut-être, en tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est ce besoin, quand je rentre chez moi, après une journée de travail, c'est justement de démarrer par quelques minutes d'activité de rangement, nettoyer les surfaces, passer un coup d'éponge, enlever la poussière avec l'éponge. Et à partir de là, une fois tout ça fini, je peux faire autre chose. Mmh. Je peux être auprès de mes enfants, enfin, quand j'étais là, je peux être disponible.
Et dans quel état êtes-vous quand vous avez fait le ménage, quand vous avez rangé?
Une fois que je l'ai fait Et ben, à partir de ce moment-là, je suis plus, vous avez dit serein, plus apaisé, plus tranquille et plus disponible. Mmh.
Docteur Schneider, comment on explique cet état?
Alors, c'est très personnel, je crois. Il peut y avoir des personnes qui vont vraiment se mettre à l'autre bout de la maison pour ne pas toucher à tout ça. Je crois que c'est très personnel et c'est bien de le savoir. Ce qui est important, c'est de se connaître et de dire, moi, ça me fait du bien. Et faisons ce qui nous fait du bien.
Moi, à titre personnel, quand je fais le ménage, c'est une sorte de méditation. Quand je fais la vaisselle, quand je passe la serpillière. Est-ce que c'est votre cas, Bruno Ginesti?
C'est exactement ça. Ouais. Et c'est pour ça que le moment, par exemple, avant d'aller me coucher, quel que soit mon état, je fais la vaisselle et je laisse l'évier propre. Mais en fait, c'est un moment où, pour de vrai, pendant 15 minutes, j'ai pas mon téléphone, j'ai pas mon ordinateur, j'ai les mains dans l'eau tiède avec le savon de Marseille, etc. Ça, c'est très très sensoriel et c'est vraiment un moyen qui m'apaise parce que je suis assez tendu au quotidien. Et là, je trouve que c'est les 15 minutes où je respire et avec ce résultat immédiat et la satisfaction d'aller me coucher avec quelque chose de neutre.
C'est une sorte de pleine conscience, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'être à ce que vous faites. C'est une activité manuelle. Et alors, vous décrivez un truc important aussi. Vous décrivez que l'eau est chaude à la bonne température. Donc, vous avez une plongée dans un élément agréable. Vous êtes obligé d'être en ce moment en train de faire la vaisselle ou de nettoyer votre évier.
Florence, c'est une sorte de méditation quand vous faites le ménage?
Alors, c'est drôle que vous parliez de ça parce qu'il se trouve que je médite le matin une séance de 30-40 minutes de pleine conscience. Et le soir, j'ai finalement besoin de ce temps de ménage. Ce que je voulais rajouter, c'est que c'est pas facile pour l'autre et son environnement, par contre. C'est-à-dire de comprendre pourquoi un homme rentre et d'un coup va se mettre... Alors un homme, je suis un homme, mais pourquoi va se mettre à s'agiter dans la maison. En tout cas...
Merci beaucoup Florent, en tout cas, de nous avoir appelé. Alors, le ménage fait partie de la charge mentale qui repose essentiellement sur les femmes. Tiens, écoutons Blanche-Neige qui a bien intégré que cette charge du ménage reposait sur ses épaules.
Et regardez-moi cette cheminée. Elle est couverte de poussière. Oh, voyez-moi un peu ce balai. Ils ne font donc jamais le ménage? Ce serait à leur mère de le... Mais peut-être n'ont-ils pas de mère? Peut-être sont-ils orphelins? Les pauvres petits. J'ai une idée. Mettons de l'ordre, faisons-leur une surprise. Ils me permettront peut-être de rester. Vous ferez la vaisselle. Vous rangerez la pièce. Vous époussetterez la cheminée. Et moi, je prends le balai. Si plaisant travaillons.
Alors, docteur Aurélien Schneider, le ménage et le rangement ne sont pas une partie de plaisir quand cela pèse trop sur la charge mentale des femmes, essentiellement. Beaucoup d'auditrices nous demandent comment abaisser cette charge mentale liée à ce ménage et à ce rangement.
Je comprends tout à fait la question, d'autant plus que Bon, là, on écoute Blanche-Neige, c'est très drôle. Mais le ménage n'est pas toujours gratifiant. Généralement, quand la maison est propre, on vous dit pas « Ah, c'est merveilleux, il n'y a pas de poussière sur la cheminée ». Il y a un aspect qui est répétitif et qui est ingrat. Le rangement, c'est un peu différent. On voit que c'est rangé. Mais le ménage, c'est plus dur. Et je pense que la solution réside dans le partage des tâches. C'est pas déléguer, etc. Blanche-Neige a des petits oiseaux, etc. pour faire son ménage, mais la famille, quoi. Tout le monde peut participer au rangement et au ménage de la maison.
Et peut-être de se dire, tiens, c'est pas grave si y a un petit peu de désordre, si la panière de linge déborde un petit peu.
Surtout, c'est se dire...
Être moins perfectionniste, peut-être, c'est l'une des clés aussi.
Être moins perfectionniste, lâcher. Parce que c'est très bien que tout soit propre, mais il faut pas en faire, je le disais tout à l'heure, un esclavage. C'est-à-dire que, oui, propre, c'est bien, mais hyper propre... Dans une maison où, de toute façon, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le mythe de Sisyphe. C'est-à-dire, on refait. Il y a un moment où c'est trop et où ça se rajoute à la journée. Et il faut lâcher des contraintes. Il faut se dire, stop, c'est bien, ça suffit. C'est rangé, ça pourrait être mieux, mais tant pis.
Bruno Ginesti,
je suis tout à fait d'accord. Je trouve ça absolument génial. Moi, je trouve que d'autant plus fantastique si on arrive à garder quelques petits, comme un squelette, une structure qui va quand même nous suivre chaque journée. Par exemple, moi, c'est la cuisine. Je trouve qu'il y a des points stratégiques qui doivent être entretenus au quotidien. Les toilettes, par exemple, et la cuisine, les points d'eau, voilà. Et je trouve que si ces deux points-là stratégiques, donc sont nettoyés, entretenus vraiment au quotidien, et que le reste après évolue. Ça, c'est, oui, je trouve ça vraiment génial qu'on arrive à avoir une structure quand même minimum, sans, enfin, après, oui.
Oui, et puis laisser le reste
vivre
et se salir, comme vous avez dit, le droit de se salir.
Elvira Petit.
Alors moi, malheureusement, j'adhère pas trop parce que je suis très maniaque. Et pour le coup, moi, c'est pas du tout au moment du ménage que je médite. Ah. J'ai les écouteurs et je mets la musique à fond.
C'est très bien aussi.
Voilà, je mets mes playlists préférées.
Ou un podcast.
Voilà. En revanche, une fois que le ménage est fait, je suis sereine, je suis apaisée et je peux méditer. Voilà. Et comme le dit Monsieur Ginesti, il faut mettre en place des petites routines quotidiennes qui vont faire que ça va devenir des automatismes. Le matin, je mets mon linge au sale, j'aère ma chambre, je fais mon lit. Je passe dans la salle de bain, je mets un coup de, comment dire, d'éponge dans l'évier une fois que je me suis maquillée et coiffée, parce qu'il y a des petits cheveux et puis des petites, un peu de maquillage. En cuisine, je mets tout de suite au lave-vaisselle. Je fais pas la vaisselle à la main, j'ai un lave-vaisselle. Donc je mets tout de suite au lave-vaisselle mon bol de café, etc. Donc c'est des petites routines, en fait, qui font que les choses vont se faire mécaniquement. Il n'y a plus de contrainte à se dire « Oh là là, il faut que je fasse le ménage ». Et c'est la même chose pour le rangement.
C'est la règle des 5 secondes, c'est de le faire tout de suite sans réfléchir.
Tout de suite,
quoi. Voilà. Sinon, ça ne se fera jamais. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Nous vous aiderons à gérer le petit désordre du quotidien. On vous donnera également des astuces pour nettoyer le plus sainement possible. Avant ça, on écoute Louis Chédid, « Tout ce qu'on veut dans la vie ».
Apaiser rien qu'un seul. Aussi léger soit-il, à peine le poids d'une feuille, la caresse d'un cygne, écouter battre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Revers de la médaille, même si ça fait mal, parfois, parfois, pour un simple je t'aime, être prêt à faire n'importe quoi. Trop aimer, trop s'étreindre, qui oserait s'en plaindre. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie.
De tout ce qu'on veut dans la vie.
Mais ça alors, tu as tout nettoyé.
Grand bien vous fasse.
Tu as ciré le plancher. Tu as fait les carreaux, ça faisait des mois que je te le demandais. Et tu as fait le ménage. Alors ça a porté ses fruits.
Ali Rebelli.
Non, en fait, je t'avoue, j'ai rien fait.
Oh, c'est pas vrai. C'est encore moi qui l'ai fait endormir.
Sur France Inter.
10h27, comment faire du ménage et du rangement une partie de plaisir? C'est notre thème ce matin. Standard ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter.
Balayer au balai. J'adore balayer.
Moi, franchement, j'aime bien la vaisselle. Bizarrement, mais ça me détend en fait.
Ce que j'aime bien, c'est le chiffon à poussière, faire l'argenterie, briquer. Décorer, bricoler, j'adore balayer.
Je ne fais pas beaucoup de ménage, mais je repasse beaucoup.
Le repassage, ah, je déteste.
Ça, c'est vraiment pénible.
Moi, c'est le repassage, parce que j'ai toujours peur d'être nul et de cramer un truc, mais c'est...
Ah non, très clairement, ma femme est aussi allergique que moi au ménage.
Bah, c'est l'aspirateur, je déteste, je le fais, mais je le déteste.
Peut-être essuyer les meubles, c'est ce que j'aime le mieux, parce que ça se voit, et puis parce qu'il faut faire attention, et j'aime beaucoup ça. Voilà.
Moi, je suis un maniaque et je suis un provincial. Alors du coup, je fais le ménage très régulièrement et j'ai été éduqué comme ça. Donc ouais, c'est toujours très très propre chez moi, même en tant qu'étudiant dans mon 16 mètres carrés.
Quand je fais le ménage, c'est en grand et donc oui, après coup, on ressent une énorme satisfaction immédiatement teintée de l'immense déception de voir tout repartir à volo très très vite.
Propos recueillis dans les rues de Paris par Victorien Thomas et Alice Galtier. Alors Laurence nous dit qu'elle est perçue comme maniaque par son entourage. Je la cite, je me sens tellement bien quand je fais le ménage. Mais à partir de quand cela peut-il devenir pathologique et ressembler à un TOC? Le TOC, je le rappelle, c'est le trouble obsessionnel compulsif. Docteur Schneider.
Alors, le TOC, c'est une situation dans laquelle la personne se sent obligée de faire le ménage avec des idées obsédantes.
Voilà, c'est ça.
Qui sont la caractéristique, c'est-à-dire dire si je ne fais pas ça, alors je serai malade ou alors je serai contaminé par n'importe quel virus, etc. Donc si on fait juste un ménage un peu appuyé, mais qu'on n'a pas d'idée obsédante, qu'on n'a pas une obligation interne de faire ce ménage, on n'a pas un trouble obsessionnel compulsif.
Bruno Ginesti alias Bégine, c'est pas votre cas?
Non.
D'accord, pas encore.
Non, mais encore une fois, c'est moi je trouve que c'est fabuleux de pouvoir vivre en ayant en tête des solutions pour nettoyer ou pour remédier aux petits accidents du quotidien. C'est ça qui est génial.
Alors, vous publiez Ménagez-vous et quels sont les produits essentiels à posséder dans son placard? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a 6 ou 7 oui. Essentiels pour vous.
Alors, il y a d'abord les savons solides, donc évidemment le véritable savon de Marseille avec lequel je fais quand même beaucoup de choses. Quoi. Je
vous nettoyez les vitres avec, par exemple?
Évidemment, je nettoie les vitres, je fais la vaisselle, je nettoie mes baskets, enfin, je détache le linge, évidemment. Le savon au fiel de bœuf.
C'est quoi ça?
Bah, c'est un savon à base de bile de bœuf.
Et il sert à quoi ce savon?
Pour toutes les tâches organiques, particulièrement le vin, les tâches de fruits rouges, etc. C'est vraiment exceptionnellement efficace. Ensuite, il y a les traditionnelles poudres, que ce soit le blanc de meudon pour tout ce qui est...
C'est quoi le blanc de meudon?
C'est de la craie, en fait. Et donc, ça permet de polir sans rayer tout ce qui est les métaux comme le métal argenté, l'argent massif, etc. C'est fabuleux.
Dans votre placard, on retrouve également de l'acide citrique.
Exactement, pour tout ce qui est calcaire. Ça, c'est quand même fantastique.
Pour nettoyer le calcaire, bah, une astuce, tiens, par exemple.
Et ben, je prends dans un vaporisateur de l'eau, je mélange de l'acide citrique, j'ai 3 cuillères à soupe, je dirais, dans 500 ml. Et puis, je m'en sers à vaporiser sur les robinetteries, par exemple, qui sont pleines de calcaire. Donc, ça attaque le calcaire. Puis, je rince, je sèche.
Et vous rincez à l'eau froide, d'ailleurs. C'est important. Oui. C'est une petite astuce.
La cabine de douche, après chaque douche, je la rince à l'eau froide avant de passer un coup de raclette. Et en fait, il y a moins de formation de calcaire en rinçant à l'eau froide. Et ça compte, parce que quand on le fait au quotidien, finalement, j'ai plus jamais besoin de passer 2 heures à rattraper ma paroi de douche qui serait complètement blanche de calcaire, quoi.
Sophie Kouane, de 60 millions de consommateurs, il est très vertueux, hein, de fabriquer ses produits ménagers maison, mais à condition que cela ne rime pas avec charge mentale décuplée en fabriquant ses produits ménagers.
Ah oui, l'idée, c'est de pas passer des heures en cuisine à fabriquer ses produits, mais néanmoins, quand on utilise les produits que vient de citer Bruno, on a nettement moins d'impact sur la santé et sur l'environnement. Les produits que nous avons analysés, que ce soit le bicarbonate de soude, d'ailleurs on n'a pas parlé, le vinaigre blanc, l'alcool ménager, sont des produits particulièrement vertueux, comparés à certains produits manufacturés qu'on trouve dans les rayons.
Et oui, vous avez passé 52 marques au banc d'essai, 119 produits d'entretien à la loupe, dans 14 catégories. Un tiers des références sont potentiellement nocives, et en particulier les composés organiques volatiles. Pourquoi ces composés organiques volatiles, les COV, posent-ils problème? Alors, ce sont des substances néfastes qui se répandent dans l'air intérieur. Hein.
Exactement, donc on les trouve dans l'air. Ils sont émis évidemment par l'usage en spray de produits ménagers. Donc on limite les COV, comme on les appelle, en n'utilisant pas de spray dans la maison. Mais ils sont également émis par les meubles, par les mousses, par les canapés. Et puis, ils arrivent également de l'extérieur, parce que la pollution intérieure vient beaucoup de l'extérieur également.
Et pourtant, il faut aérer au moins 10 minutes par jour pour les évacuer, ces composés organiques volatiles.
Oui, aérer, c'est quelque chose de très important, et c'est quelque chose de très important quand on fait le ménage d'une manière générale, quels que soient les produits qu'on emploie. Ça permet d'évacuer un maximum de substances contenues dans les produits ménagers.
Elvira Petit, coach en rangement, vous utilisez des produits ménagers naturels, faits maison?
À titre personnel?
Oui.
Non, je suis désolée, mais non.
Alors, Sophie Kouane, à chaque maison et à chaque saison, sa poussière. La poussière renferme des débris textiles, des poils d'animaux, quantité de peau morte. On en perd environ 1 gramme par jour. Elle contient également des acariens et leurs déjections. Les acariens qui se nourrissent d'ailleurs de ces peaux mortes. On retrouve aussi dans la poussière des débris d'insectes morts et des débris alimentaires. Bon, voilà, c'est pas très ragoûtant tout
non,
ça.
Pas très
Donc, c'est pour cela qu'il est essentiel de nettoyer cette poussière tous les jours, ou au moins une à deux fois par semaine, quoi.
Oui, alors des chercheurs australiens se sont amusés, si on peut dire, à recueillir des sacs d'aspirateurs pour analyser leur contenu. Et puis, ils ont trouvé des choses pas terribles, notamment beaucoup de métaux lourds qui proviennent des peintures. Et ils ont vu qu'il y avait des gènes de résistance dans les bactéries récupérées, des gènes de résistance aux antibiotiques qui sont liés à un emploi trop important de désinfectants dans la maison. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, effectivement.
Quelles sont vos astuces, tiens, Bruno Ginesti, pour éliminer efficacement cette poussière?
Alors déjà, la poussière, il faut la faire de haut en bas, ça c'est important, parce que en fait la poussière va tomber, donc on commence pas par aspirer avant d'avoir fait la poussière sur les surfaces et puis ensuite sur les cadres. Moi, j'utilise le plumeau, j'avoue, c'est un peu à l'ancienne, mais je trouve que c'est très efficace pour justement atteindre les hauts des cadres ou des miroirs, etc. sachant qu'il y a également la tête de loup pour vraiment les angles.
La tête de loup
Les têtes de loup, c'est cet instrument un peu rond mis au bout d'un manche qui permet d'accéder justement et de faire étoile d'araignée. Donc tête de loup, puis après j'utilise un plumeau, et puis ensuite un chiffon avec longue microfibre qui accroche du coup les poussières. Et voilà.
Et on évite, Sophie Kouane, d'utiliser des lingettes nettoyantes qui sont un désastre environnemental.
Oui, dans les 14 familles que nous avons étudiées, c'est la famille la plus problématique avec les désodorisants. Beaucoup parce que on les jette souvent dans les toilettes et ça cause des problèmes incommensurables dans les stations d'épuration, extrêmement coûteux pour la société, donc extrêmement coûteux pour les gens qui n'utilisent pas non plus de lingettes. Et puis ces lingettes contiennent des substances problématiques, certaines qui sont soupçonnées d'être des perturbateurs endocriniens, donc d'agir sur le système hormonal, d'autres qui sont allergisantes. Et la dernière chose, c'est que comme on lit rarement le mode d'emploi, seuls 16% des Français lisent le mode d'emploi des produits ménagers, eh bien on les utilise pas correctement. Donc il y a de fortes chances pour que la façon dont on les utilise soit inefficace.
Bruno Ginesti, anti-lingette nettoyante.
Ah oui, oui. Ouais. Mais en revanche, j'utilise les microfibres, mais je sais en même temps que les microfibres, il y a un gros problème avec les microfibres, c'est ça libère des micro-particules plastiques, etc. Donc il y a des lois qui vont arriver d'ici 2025 pour les fabricants de machines à laver, pour avoir des filtres justement à particules, à micro-particules. En revanche, oui, moi je fais le choix parce que, je trouve ça... pour le coup efficace, c'est lavable et donc du coup j'évite les lingettes évidemment à usage unique, ça c'est certain. Et puis même dans les éponges, je trouve que quand on les lave à la machine, que ce soit à la machine à laver le linge ou la vaisselle, elle en ressort assez, elle se désagrège ensuite les éponges, c'est compliqué. Donc j'ai hâte qu'il y ait aussi des solutions pour les microplastiques justement parce que ça pollue énormément.
Quelle est votre routine quotidienne de ménage qui prend environ, vous l'expliquez dans votre livre, un quart d'heure par jour? Quand vous quittez votre maison, vous êtes rasséréné parce que voilà, c'est propre. Qu'est-ce que vous faites?
Alors déjà quand je me réveille le matin, j'ouvre mon lit, j'ouvre la fenêtre de ma chambre et j'aère, que ce soit ma chambre et le salon. La cuisine, donc elle est déjà entre guillemets propre puisque la vaisselle a été faite la veille. Ensuite, je vais prendre ma douche. Après chaque douche, vraiment, je passe un coup de raclette et je sèche la paroi. Mais ça, c'est devenu, on parlait d'automatisme, de rétablir des petites routines. Moi, c'est devenu... un automatisme,
un rituel,
et en fait j'y pense plus, quoi. Ça me coûte pas de le faire.
Vous faites votre lit, vous regonflez
les canapés, etc.
Pourquoi?
Et puis parce que je trouve que visuellement c'est important. Quand je rentre quelque part, il y a deux choses. Il y a un, l'odeur, est-ce que on sent que l'environnement a été aéré, donc ça compte. Et visuellement, est-ce que je suis pollué par plein de choses? Elvira, vous en parliez d'une surface recouverte d'objets, etc.
D'autant que effectivement, quand on met des petites routines en place comme ça et qu'on rentre le soir du travail, c'est en fait la maison, c'est un sas de décompression. Et si on est agressé à l'extérieur, dans les transports, au travail parfois, on a un stress énorme. Et en fait, il faut vraiment que la maison soit un havre de paix. Il faut qu'on se ressource quand on rentre chez soi. Donc on s'organise comme on veut. Il y a des gens qui vont se lever une heure plus tôt le matin pour faire tourner les machines, pour étendre le linge, pour nettoyer la cuisine. Et puis il y a des gens qui vont faire ça le soir. Mais c'est vrai que faire ça régulièrement, ça va vous éviter d'avoir un stress monstrueux le samedi matin en vous disant « Oh là là, il faut que je fasse le ménage ». Et il y en a pour toute la journée. Et vous faites que ça toute la journée.
Magali nous écrit « Moi qui ai tendance à la déprime ou à la mélancolie, cela s'accentue si mon logement est mal rangé. J'aime trouver ma maison rangée, cela m'apaise. Et Sophie, j'ai des périodes de dépression fréquentes. Quand je fais le ménage, je me sens beaucoup mieux et très satisfaite. Je sens la même chose quand je fais du jardinage. » Docteur Schneider.
Oui, mais tout ça est tout à fait exact. Et la mise en place de routines, de petites routines souples. Moi, j'insiste sur la souplesse. C'est-à-dire que Tout me paraît absolument pertinent. Ces routines, cet environnement de la maison qui va être un havre de paix finalement, une base où on se ressource. Ce qui m'importe moi avec mes patients, c'est que ça ne devienne pas un esclavage. Parce que justement, si ça devient trop lourd, c'est de la charge mentale et c'est quelque chose à ce moment-là qu'on trimballe tout seul et qui nous écrase. L'obligation de faire bien, de faire trop bien. On parlait du perfectionnisme tout à l'heure et c'est ça le problème. C'est-à-dire que si quelquefois on doit partir plus rapidement ce matin-là, ce jour-là, et qu'on a dû laisser en plan, il faut pouvoir laisser en plan. Moi, j'attache énormément d'importance à la souplesse mentale, au fait de pouvoir se permettre, s'octroyer que, eh bien, pour une fois, l'évier ne soit pas rangé parce que on était un peu à la bourre, on a eu quelqu'un au téléphone et on est parti. On est parti pour pas rater son train. Et parce que si on rate son train, toute la journée va être, il y a une répercussion sur les horaires, etc. Et moi, ce qui m'importe, c'est la souplesse. Ce qui m'importe, c'est le bien-être dans le fait de faire ces choses. Et trouver des routines, ça peut être tout à fait structurant. Et pour notamment des patients qui sont, je le disais tout à l'heure, un petit peu limite déprimés, eh bien, ça les cadre et ils en ressentent un bénéfice. Il faut que ce soit souple, il faut que ce soit une petite routine, mais pas un vrai rituel, une sorte de prison. Quoi,
hein. Elvira Petit, comment gérer le petit désordre du quotidien, ce petit bazar qui peut être une source de stress, c'est aussi évidemment une pollution visuelle et mentale. C'est quoi vos conseils pour qu'on s'attaque à ce petit désordre quotidien?
Alors moi, mes conseils, c'est que en fait, il faut trouver une place à chaque chose et chaque chose à sa place. À partir du moment où c'est intégré, mécaniquement, les objets, on va les ranger parce qu'on sait qu'on doit ranger les piles qu'on vient d'acheter au supermarché dans cette boîte, qu'on doit le courrier qui est entrant, il va dans cette bannette, etc. Donc en fait, il faut vraiment que chaque objet et une place définie et définitive dans la maison, et surtout qu'il soit rangé dans un endroit accessible en fonction de son usage et mécanique. C'est-à-dire, moi, une fois, j'ai fait un aménagement d'une personne qui a été absente pendant toute la semaine, et elle a dit c'est formidable parce que je sais où elle a rangé ça.
Bruno Ginesti, vous n'arrêtez pas d'acquiescer.
Ouais, ça me parle vraiment.
Ah, racontez-nous-vous comment vous gérez votre petit bazar quotidien.
Moi, c'est un truc qui, en tout cas, que je trouve assez parlant, c'est j'essaie de penser par famille. Et par exemple, je rentre dans une pièce et j'aime bien parfois m'arrêter et faire le tour avec en regardant la pièce et à nommer les objets. Et en nommant les objets, j'ai un peu l'impression que du coup, c'est un peu une évidence. Un coupe-ongle n'a pas forcément grand chose à faire à côté d'une chaussette, d'une paire de chaussures, d'une facture et du coup, bah, ça m'aide à regrouper famille par famille. Donc, ce qui va aller dans la cuisine pour être lavé, ce qui va être dans la chambre, ce qui va être dans la salle de bain. Et puis ensuite, de regrouper, donc, pièce par pièce, toutes ces familles, et ensuite d'aller raccompagner chaque famille à l'endroit qui lui est destiné.
Ça m'aide. Et pour vous, il est très important de nettoyer au rythme de ces activités.
Exactement. Ça, c'était justement, encore une fois, des automatismes qui arrivent. Je me lave les dents, je passe un coup de chiffon et je raccroche la lavette sur le côté gauche. C'est que on ait aussi le matériel utile pour faire le ménage à disposition, qu'on soit pas obligé de se trimballer dans toute la maison un énorme seau avec tout le matériel, qu'on dispose à droite à gauche de manière discrète, comme on le souhaite, mais en tout cas de matériel qui va nous aider à, je tends la main chez moi, je tends la main à gauche de mon évier, j'ai un chiffon qui me permet de passer un coup. Et ça paraît peut-être bête, mais en vrai, je n'ai plus besoin de faire le ménage. En fait, il est dans ma routine.
Bonjour Brigitte, bienvenue. Bonjour Brigitte, vous appelez de Bretagne. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse.
Merci.
Alors, vous avez une astuce, vous, de nettoyage naturel?
Ah oui, tout à fait naturel et super efficace. Mm-hmm. Je vis à la campagne et je me chauffe essentiellement avec un poêle à bois. Mm-hmm. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus pénible et long et fastidieux que de nettoyer la vitre d'un poêle à bois. Sauf quand on connaît cette astuce et qu'on l'a fait, pour reprendre ce que disaient vos intervenants, qu'on le fait régulièrement, moi en l'occurrence je le fais maintenant tous les jours, c'est soit le fer à chaud, c'est-à-dire on prend une boule, on prend du papier journal avec lequel par exemple on a pu allumer son feu, on en garde, on fait une boule de papier journal, on la trempe dans l'eau et on nettoie la vitre avec cette boule de papier journal trempée dans la cendre.
Ah, c'est pas mal.
Et
ça.
La cendre, en fait, je crois que c'est de la soude ou un truc comme ça, ça nettoie la suie, parce que c'est ça qui encrasse la vitre, qui fait ses traces noires, marron, etc., et qui sont difficiles à enlever. Et si on n'a pas eu le courage de le faire à chaud, là, par exemple, je l'ai pas fait hier soir, je vais le faire maintenant, je prends de l'eau chaude, je prends ma boule de papier journal, je mets de l'eau chaude sur le papier journal, je trempe dans la cendre et je nettoie ma vitre. C'est comme si je le faisais à chaud, en fait. Voilà.
Super astuce, hein, Brigitte.
Aussi, mais il faut avoir un poêle à bois. c'est autre chose.
Une astuce J'adore. Pour nettoyer son four, Bruno Ginesti,
moi,
dans le même état d'esprit.
Oui, et ben c'est encore une fois, c'est à chaud. Pardon, je m'étouffe.
C'est le témoignage de Brigitte.
Mais en fait, ça, c'est un peu similaire puisque ça va être à chaud sur un four qui est tiède. Moi, j'utilise du savon noir en pâte. Mm-hmm. Et du coup, je le dispose sur les parties encrassées, puis je vais me coucher.
Il faut que le four soit encore un peu tiède. Hein.
Ouais, encore un peu tiède. Et vraiment, j'étale du savon noir en pâte qui va vraiment agir toute la nuit. Et le lendemain, en grattant, vraiment, ça décolle une partie incroyable de. Alors peut-être qu'il faut y revenir une deuxième fois. Mais quand on le fait régulièrement, on n'a pas besoin non plus de trop de temps et d'énergie et de produits chimiques surtout.
Merci beaucoup Brigitte pour votre témoignage. Alors pour nettoyer toute la maison de façon naturelle, vous conseillez la pierre blanche et vous la fabriquez vous-même. Expliquez-nous ce que c'est.
On en trouve dans le commerce, on peut la faire soi-même. Moi je la fais à base de blanc de meudon, donc cette poudre, savon noir et bicarbonate, et donc on va mélanger, puis ça va
durcir. 200 grammes de blanc de meudon, 70 grammes de savon noir et 80 grammes de bicarbonate de soude. Vous mélangez, vous placez dans un bocal en verre, vous laissez sécher une semaine.
Exactement.
Couvercle ouvert.
Exactement. Après, donc ça.
Pendant une semaine. Hein.
Exactement. Il faut que ce soit tout à fait dur. Et ensuite, en récupérant, donc c'est dans un récipient, un peu avec une tête large pour pouvoir y mettre une éponge. Et ensuite, avec ce produit-là, on peut absolument tout nettoyer.
Par
sans
exemple.
Aucun. On peut nettoyer son lavabo, sa baignoire, son évier en inox, ses surfaces. On peut même faire ses vitres, il n'y a aucun problème. On peut tout nettoyer avec. C'est un tout-terrain et c'est ça que j'adore en fait.
Sophie Kwan, vous proposez donc un banc d'essai des nettoyants multi-usages dans 60 millions de consommateurs. C'est difficile de trouver le produit idéal. Très compliqué. Hein.
Alors effectivement, un des problèmes, c'est que les étiquettes sont très limitées. Et on trouve pas le nom des produits, de la plupart des produits sur les étiquettes des produits ménagers. Il y a néanmoins quelques marques qui sont particulièrement vertueuses. Alors on avait parlé des produits à tout faire fait maison qui globalement ont de très bonnes notes, que ce soit pour l'impact environnemental ou sur la santé. Et puis il y a quelques marques qui font vraiment l'effort d'aller chercher les substances les moins toxiques, les moins irritantes, les moins allergisantes pour fabriquer des produits avec très peu d'ingrédients. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister, sur le nombre d'ingrédients auxquels on s'expose. Quand on a beaucoup de produits industriels pour la salle de bain, la cuisine, le four, les toilettes, etc., à chaque fois, on s'expose à 10, 15 substances différentes. Et c'est cette exposition-là fréquente qui peut poser des problèmes pour la santé. Une étude a montré que utiliser des nettoyants ménagers 4 à 7 fois par semaine, ça favorise l'apparition de l'asthme. 4 à 7 fois par semaine, c'est la routine quotidienne. Donc, d'où l'intérêt de prendre des produits les plus sains possibles.
Et à quel label se fier en matière d'étiquetage? Il y en a beaucoup, hein. Écolabel, Nature et Progrès, EcoCert, il y en a beaucoup d'autres encore. Hein. S'y perd, hein.
On s'y perd un peu. Les labels sont pas toujours super visibles sur les étiquettes non plus. Alors Écolabel, EcoCert, c'est intéressant. Il y a également Allergènes contrôlés pour les personnes qui sont allergiques. Et là, faut regarder en tout petit. Quand il y a Allergènes contrôlés et 2 étoiles, ce sont des produits qui sont particulièrement peu, voire pas allergisants.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour trier et ranger de façon efficace. Ce sera juste après Billie Eilish qui interprète Billie Bossa Nova.
Love when it comes without a warning. Cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. staring. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. You go. I'm sorry if it's torture though. I know, I know. It might be more of an obsession. You really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something.
Interprété Billy Bossa Nova.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi, sur France Inter.
10h52, comment faire du ménage et du rangement une partie de plaisir? Standard ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant un message sur l'appli. Et Fab nous dit, eh ben, quand je fais mon ménage, je mets mon casque Bluetooth sur les oreilles, j'écoute France Inter, il a bien raison. Et nous accueillons Sophie, bienvenue Sophie.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes une maniaque, une bordélique. Où vous situez-vous entre les deux?
Au milieu. Ouais. Ouais, en fait, c'est pour répondre aux conseils également de vos invités sur, effectivement, faire au fur et à mesure et tout de suite. Oui, je pense que ça serait la solution, mais en fait, je n'y arrive pas. Donc, j'ai essayé, ce n'est pas possible. Donc les habits s'entassent. Voilà. Et par contre, j'adore faire le ménage. J'adore que la satisfaction du résultat immédiat. J'ai trouvé super un beau témoignage de la part donc de Marlène Détriche en introduction de l'émission. Voilà, sur quelqu'un qui fait un métier extraordinaire et qui en même temps exprime bien la réalité des choses. Voilà.
Mais le rangement, c'est plus difficile.
C'est plus difficile, mais par contre, j'adore faire une grande séance de rangement. Ah. Voilà.
Alors, pour la séance de rangement, on a Elvire Impetit qui va nous donner ses conseils pour désencombrer avec efficacité. Quelles sont les grandes étapes quand on a du mal à s'y mettre? On a beaucoup de messages ce matin qui vont dans ce sens, des gens qui nous disent « Oh là là, je vais pas y arriver, j'ai pas la force, c'est trop dur ».
Alors, déjà, il faut commencer par une petite séance à peu près d'une heure. Il faut pas du tout se mettre la pression, justement, ça rejoint ce que disait madame tout à l'heure. Il faut y aller tranquillement. Et il faut commencer par quelque chose sur lequel vous n'avez pas d'affect. Mmh. Par exemple, on a tous, enfin presque tous, un tiroir à bazar. On prend ce tiroir et puis vous allez voir que vous allez jeter quasiment tout ce qu'il y a dans ce tiroir. Il n'y a pas d'affect parce que ce ne sont pas des objets dont vous avez hérité. Ce ne sont pas. Il y a aussi le gros problème des papiers administratifs. Mais bon, c'est pas l'objet, mais ça pèse vraiment aux personnes. Il n'y a rien de plus facile que de trier ces papiers administratifs parce qu'il y a des délais de garde. Voilà. Donc commencez par quelque chose de facile. Triez vos chaussures, triez vos sous-vêtements, et vous allez voir que plus vous allez commencer à trier avec les trois catégories. Donc je garde, je donne, et malheureusement certaines choses sont à jeter. Des vêtements qui sont très abîmés, on ne peut pas les donner. Donc on les jette ou on les met à recycler dans les bennes. Et vous allez voir que ça va commencer à vous créer une espèce de bien-être. Et vous allez avoir envie de continuer.
C'est vraiment du tri par l'utile. Hein.
par l'utile. Bon, il faut qu'il y ait aussi de l'affectif, il faut quand même garder des choses qui nous plaisent. Mais très honnêtement, un vêtement que vous n'avez pas porté depuis 2 ans, c'est pas la peine de le garder. Donnez-le à une association, ça fera plaisir à quelqu'un. Si vous avez un manteau que vous avez acheté il y a 8 ans et que vous ne mettez pas, donnez-le. On est en période hivernale, ça pourra aider une personne qui a froid, qui n'a pas de vêtements. Et gardez que les choses qui vous font plaisir et du bien.
Et pour vous, le secret d'un rangement réussi, c'est de ne pas ranger par pièce, mais par thème.
Voilà, par catégorie. Un exemple tout simple. J'ai dans ma clientèle des gens qui voyagent beaucoup. Et à chaque moment où ils doivent faire leur valise, ils ne retrouvent pas leur cadenas, ils ne retrouvent pas leur coussin, ils ne retrouvent pas plein de choses. Alors qu'est-ce que je fais? Moi, je mets tout dans la valise, en fait. C'est-à-dire qu'au moment, donc c'est pas logique parce que le coussin devrait être avec le linge de lit, le cadenas avec les clés. Non, ben moi je mets tout dans la valise et en fait au moment où la personne va faire sa valise, tout sera déjà regroupé. Voilà.
Docteur Schneider qui prend beaucoup de notes. Ah ouais, ça vous parle, c'est
mais
ça
bien sûr, mais moi je suis mais moi je suis une bordélique terrible. Mais alors c'est très marrant parce que je me suis beaucoup fait de reproches en famille, c'est compliqué, enfin bref. Et alors mon cabinet, il y a des piles. Des piles terribles de toutes sortes de choses, des livres. Si je range, je ne retrouve plus rien. C'est terrible de ranger, de ne plus rien trouver. Alors que quand je ne range pas, je sais où c'est finalement. Et puis ça ne gêne pas mes patients. Et donc finalement, ça s'accumule. Mmh. Et je vis avec ça. On cohabite bien, mon bazar et moi.
Mmh. Elvira Petit, concernant le tri un peu plus sentimental, il faut se demander, tiens, s'il y avait un incendie ou une catastrophe, qu'est-ce que j'emporterais? Et c'est ça, en fait, les objets essentiels qu'on va garder. Le reste, après...
En fait, moi, ce que je dis parfois, c'est imaginez que, sans même parler d'un incendie, vous avez 1 heure pour partir définitivement. Oui. C'est la guerre,
c'est un peu ça.
C'est pire que l'incendie. Ouais. Qu'est-ce que vous prenez réellement? Et on se rend compte qu'au final, les gens vont pas prendre tant de choses que ça. Et surtout, un conseil...
L'album
que
photo.
Voilà. Et surtout, un conseil que je vous donne, ne faites jamais votre tri sur des choses affectives avec un membre de la famille, un ami, vos enfants. Ça va être votre époux ou votre épouse. Ça va être une source de conflit. Et pourquoi tu gardes ça? Ah non, ça, on le jette. Donc, surtout, faites-le soit seul, soit avec une personne neutre qui peut vous accompagner.
Tiens, on écoute Florian qui nous a laissé une note vocale.
Bonjour, Florian, 33 ans à Dax. J'ai toujours accumulé beaucoup d'objets, de souvenirs au cours de ma vie. Avec ces deux phrases qui reviennent souvent, je vais garder ça au cas où, ou parce qu'on ne sait jamais. Et en 2019, j'ai découvert une méthode de tri et de rangement où il faut trier par ces objets par catégorie. Vêtements, livres, papier, objets divers et objets qui ont une valeur sentimentale. Et ce que j'aime dans cette méthode, c'est qu'il faut remercier l'objet du service rendu de manière à se déculpabiliser de faire le tri. Et ensuite, il faut choisir une place attitrée pour chaque objet et le ranger au même endroit après chaque usage. Ça m'a permis de retrouver par exemple des anciennes Game Boy et leurs jeux et de les mettre en valeur dans une vitrine spécifique rétro.
Et lui, Rapetit ?
Alors moi, remercier l'objet, etc., je suis pas... Enfin, voilà,
oui, un objet, c'est la méthode Marie Kondo.
Voilà.
La célèbre
qui cartonne, et tant mieux,
coach c'est parfait, en voilà. Rangement japonaise.
Voilà, moi j'ai une approche un petit peu plus familiale, un petit peu moins sacralisée. On ne garde que les objets qui nous apportent du plaisir. Moi je suis désolée, mais mon presse-légumes, j'en ai besoin. Je le garde. Voilà, donc c'est.
Vous n'avez pas de lien affectif avec votre presse?
Non, pas trop.
Légumes. Ah bon, écoutez. Bon, merci en tout cas pour vos conseils, Elvira Petit. Un dernier conseil, peut-être, Bruno Ginesti, pour terminer, un petit conseil.
Tiens, non, moi je dirais juste, il faut se faire confiance, quoi. Et on est tous capables de reprendre ou de prendre la main sur notre lieu de vie. Et puis, et puis je suis tout à fait d'accord avec Aurélia, sans se mettre de pression et sans en faire quelque chose une obligation, sinon on est quelqu'un de mauvais, mais juste d'essayer de trouver des petits trucs qui nous conviennent dans notre quotidien, en fonction de notre vie aussi, de notre situation familiale, etc. Ou dans une coloc même, enfin je veux dire dans la communauté, et puis de le faire petit à petit, et puis tout va aller bien.
Merci beaucoup Bruno Ginesti alias bgin.clean. On peut vous retrouver vos vidéos sur YouTube,
sur Instagram.
Faut que je m'y mette. Et vous avez donc publié Ménage et vous, c'est publié chez Marabout et c'est vraiment très très bien fait. Merci Elvira Petit. Le rangement c'est maintenant, c'est publié chez Vigo. Merci Docteur Aurélia Schneider. Merci Sophie Kwan. Le hors-série de 60 millions de consommateurs, nettoyez sain, dépensez moins et encore disponible en kiosque.